Les écolabusserines, tous les derniers jeudis du mois, exceptionnellement aujourd'hui, le 13 juin, hein, l'émission est en différé, mais elle passera en direct le 27 juin à 13h30. Et voilà, je me permets de vous le dire, et j'aimerais que vous soyez là en train de l'écouter, et ça va être intéressant. La thématique aujourd'hui, c'est coup de projecteur sur l'historique de la politique de la ville, en présence des invités qui sont là aujourd'hui. Marie-Martin Ranger, bonjour.
Bonjour.
Voilà, qui nous expliquera un petit peu ses fonctions dans le cadre de la politique de la ville, quand elle a travaillé. Zoubida Meghani, bonjour.
Bonjour.
Aussi, elle va nous expliquer un petit peu l'historique tout à l'heure de la politique de la ville. Et Alain Forest, bonjour.
Oui, bonjour.
Qui était aussi, un grand acteur aussi, et en même temps, qui travaillait au service de la politique de la ville. Et Jean-Pierre, qui va co-animer l'émission de radio avec moi.
Bonjour. Bonjour à vous, chers auditeurs.
Voilà. Tout d'abord, avant de parler de la thématique de la politique de la ville, on va parler un petit peu du comité Mamega. Le comité Mamega est une structure qui lutte contre l'illettrisme et l'exclusion en général. À la mémoire de Madame Françoise Ega, une grande militante qui n'était pas la seule, Jacques Marty, Françoise, Odette Aragonais, Madame Binotti et tant d'autres qui ont beaucoup, beaucoup milité dans ce territoire-là. Et désolé pour ceux que j'oublie. Voilà. Et le comité Mamega a un site qui s'appelle levivre.org, vivreensemble.org. Vous allez sur le site et vous allez voir un petit peu le travail qu'on fait. Voilà. On va passer par rapport à la thématique aujourd'hui. Dans le cadre de cette émission-là, qui est vachement importante pour nous, parce que l'histoire de la politique de la ville a un sens sur ce territoire-là, et qui est vachement important, parce que peut-être que ce n'est pas moi qui va le dire, je pense que c'est nos invités. Je trouve que c'est eux qui ont la compétence pour le dire. Déjà, pour Marie-Martin Ranger et Alain Forest, dans le cadre de la politique de la ville, c'était quoi votre fonction ?
Alors, moi, en ce qui me concerne, je suis devenue chef de projet politique de la ville à partir de septembre 91, et j'ai exercé ce métier de terrain pendant 7 ans. Après, je suis allée à la direction de la politique de la ville de Marseille pour préparer le contrat de ville 2000-2006. Et quand il a été signé, je suis rentrée à la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole qui se créait à ce moment-là. J'ai été chargée de mission, chef de service, et puis j'ai fini directeur de l'habitat et de la politique de la ville. Et là, j'ai connu des évolutions, mais je dois avouer que les années les plus intéressantes, passionnantes, enrichissantes et où j'ai énormément appris, ça a été à la Busserine. Dans ces années 90 où on construisait tous les jours un peu quelque chose en la matière, et ça a été extraordinaire.
Allez.
Moi, j'avoue que quand je viens aujourd'hui dans une réunion comme celle-là, dans ce local, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions. Parce que j'ai été en effet nommé de façon provisoire, aléatoire, par le maire de Marseille, Gaston Defer, en 1980. Et l'un des premiers personnages que j'ai rencontrés, c'est M. Ega,
donc, Franz Ega,
avec lequel j'avais d'ailleurs eu quelques difficultés. et puis, bien sûr, j'ai compris quelle était la relation de ce quartier avec Mme Ega. Je ne l'ai malheureusement pas connue, mais j'ai lu, j'ai entendu tellement de choses d'elle que pour moi, lui et elle, c'est pareil, etc. Alors je sais qu'ils sont encore... il est encore vivant, et c'est pour moi
centenaire.
Une émotion chaque fois. Il était venu il y a quelques années à la maison des familles, etc. Donc pour moi, je dirais que c'est l'essentiel. Hein. C'est l'essentiel parce qu'il représente pour moi, et je pense, tout ce qui était à l'origine de ce qu'on a appelé après la politique de la ville, c'est-à-dire la capacité des hommes et des femmes de ce quartier, de ces quartiers, on va dire, hein, de se prendre en main, de faire en sorte qu'on ne baisse pas devant les difficultés de la vie quotidienne, on se bataille, on discute, on négocie, et les négociations que j'ai eues dans le bureau là-haut, à la Busserine, dans le bureau à côté de la bibliothèque, avec un de mes monsieur Ega qui venait me voir et qui me disait « Monsieur Fourest, pour mon association du sport La Bustrine, il me faut un local, il me faut des moyens, etc. » Je dis « Écoute, d'accord, on va trouver, mais pas comme ça tout de suite. »« Ah si, c'est tout de suite, immédiatement, sinon on va fermer la porte. » Voilà, donc pour moi c'est déjà ça. La politique de la ville, je vais dire, on va presque le résumer à ça. Alors, peut-être résumer avec un deuxième phénomène, alors, qui date d'aujourd'hui ou d'hier, enfin beaucoup plus récent, qui est la façon dont un nombre important des habitants de cette cité, de ces quartiers-là, se sont retrouvés le 5 novembre autour de ce qui s'est passé à Marseille, c'est-à-dire les terribles drames de ce qui s'est passé rue d'Aubagne. Et je sais, parce que je les suis d'assez près, un certain nombre d'habitants de cette cité sont régulièrement impliqués, directement ou indirectement, dans les opérations qui sont menées pour essayer de faire en sorte que ces habitants... Donc, si vous voulez, à quelques années d'intervalle, en effet, 1979, ça fait combien, 40 ans, 50 ans, je ne sais même plus compter, vous voyez. Bah. Il me semble qu'on a là les deux réalités qui s'entrecroisent. Et je pense que quand on aura des rencontres la semaine 23 juin des États généraux de Marseille, je pense que voilà des choses qu'il faudrait qu'ils ressortent à un moment donné. C'est-à-dire que cette réalité-là, de la manière dont des habitants se mobilisent, quelles que soient les circonstances, de façon utile ou moins utile ou moins efficace. Et ma voisine d'à côté, Zubida, est un exemple aussi. Oh, elle est bien plus jeune, bon, ça va. Bon, elle a monté un certain nombre de choses, notamment autour des femmes, et puis autour de l'insécurité. Nous avions travaillé ensemble, n'est-ce pas ? Voilà, tout ça, c'est une série de petites choses, minuscules parfois, jugées minuscules de l'extérieur, mais que, de point de vue des habitants, est essentiel. Voilà, je pourrais parler plus longuement, mais ça suffit.
Nous avons aussi parmi nous donc Zubida Meghini. Quel rôle avez-vous joué dans le cadre de la politique de la ville ?
Alors moi, je précise, bon, j'ai grandi dans ce quartier, j'habitais ce quartier quand... on était des militants, enfin au départ on était des militants, je dirais des animateurs, style CLSH, qu'on était à l'école, le lycée ou l'université. Et donc... on faisait des animations pour gagner 3 sous, on encadrait, on faisait le CLSH, le centre d'animation du centre social Picon de l'époque, ou par ailleurs. Donc après, on militait déjà, il y a eu la marge d'égalité qui nous a un peu bousculé. Bon, moi, je faisais partie de ceux qui avaient reçu les marcheurs. On avait organisé aussi en 83 quand il y a eu la grande
de l'époque.
Et Alain, exactement Alain. En tout cas, il a été, il était nommé. On le connaît, enfin, juste un peu après, parce que nous on était déjà militants associatifs. Ils sont arrivés Alain et est arrivé aussi Marie-Martin Rager quand ils ont créé les fameux chefs de projet. Mais nous, on faisait déjà des dossiers de demande de subvention parce qu'en fait. Moi, après, j'ai fait une formation. En fait, on s'est retrouvés plusieurs jeunes étudiants où on a arrêté les études parce qu'on n'avait pas les moyens.
D'accord.
Donc, on s'est beaucoup plus investi dans le quartier. Et comme on était dans les lycées à l'extérieur, on a vu les différences entre nos quartiers et ailleurs. Donc, il y avait déjà quand même, c'était chaud.
On va
c'était chaud les quartiers à
voilà.
l'époque. Et
ce
les
que
jeunes qui renversaient les voitures et tout ça, nous, le peu de, je dirais, c'est pas les grands frères, c'est faux,
alors
mais les militants
certainement, c'était... On va y revenir plus longuement. Vous voyez bien qu'à travers ces présentations, la politique de la ville, c'est un vaste sujet. Et justement, on va revenir... Bon, ce que Alain Fourest a omis de dire, c'est que c'est l'un des cofondateurs de la politique de la ville. Alors, on va d'abord commencer avec Alain Fourest en lui demandant qu'est-ce que la politique de la ville, dans quelles sont les origines et dans quel contexte a-t-elle été créée ?
Oui, c'est une vaste question. Moi, il s'avère que j'ai été nommé ici, que je l'ai dit tout à l'heure, de manière transitoire, provisoire, parce qu'il y avait une urgence. Notamment, il y avait l'attentat, enfin, la mort du jeune Lahouari, devant, juste à deux pas d'ici, quelques mètres. Et c'est à cette occasion-là que la mairie de Marseille, ou du moins le maire, avait considéré qu'il fallait un peu s'intéresser à ce qui se passait là-bas. Et j'avais été auto-désigné rapidement pour venir tenter de comprendre ce qui s'y passait. Et on ne parlait pas encore de politique de la ville, c'était en 79-80. Donc je suis arrivé ici, j'allais dire, comme premier chef de projet avant l'heure. Et puis est arrivé 1981, juillet 81, où avec les difficultés un peu partout en France, dans certaines cités, notamment aux Minguettes, et où le président de la République à l'époque, François Mitterrand, avait désigné Hubert Dubedoux, maire de Grenoble, pour essayer de trouver des solutions sur les quartiers où il y avait des difficultés graves. Et Marseille en faisait partie, au moins une partie de ces quartiers. Et donc c'est là qu'est né en gros les premiers effets de la politique de la ville. Et moi, très vite, j'ai été perçu comme un des chefs de projet avant l'heure, c'est-à-dire avoir déjà amorcé modestement ici un certain nombre de contacts, avoir reconnu que les habitants, ils avaient des choses à dire, qu'il y avait des choses importantes à faire au niveau des logements, mais encore plus au niveau de l'emploi, des jeunes, de la sécurité, enfin toutes les questions qui sont bien plus complexes que simplement la réhabilitation des logements, qui ont relevé de la politique de la ville. Alors, au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, je suis devenu, le correspondant des principaux acteurs de cette politique, donc Dubedoux, bien sûr, mais aussi Bonne Maison, qui était chargé des problèmes de sécurité, etc. D'accord. Mais aussi un monsieur dont on oublie trop, qui était Bertrand Schwartz. Bertrand Schwartz a été, pour moi, un homme d'extraordinaire qualité et qui a mis en place les missions locales. Donc avec lui et avec d'autres, il venait régulièrement à Marseille pour essayer d'expérimenter tout ça. Et puis un jour, on a publié ensemble un document qui s'appelle « Développement social des quartiers », hein, dans lequel on a écrit un petit peu tout ce qu'on avait déjà expérimenté.
Alain, ce qui est intéressant, tu avais dit par rapport à l'assassinat de la Lavoirie, le ministère de la politique de la ville a été créé grâce à ce territoire.
On va pas tout à fait dire à ça, partir, parce que à Marseille, oui, c'est disons que en 80-81, les premières inquiétudes manifestes sur ce qui se passait ici avaient conduit le maire, avant même de changement politique, maire de Marseille, de me demander à quelqu'un, alors pourquoi moi ? Ben moi, parce que je savais pas trop faux, j'étais à la région, et puis j'avais commencé à travailler depuis quelques années sur Frévalon.
D'accord.
Et les premiers travaux en 73 avait été engagé à Frévalon, où il y avait déjà des difficultés considérables avant que le métro n'arrive, etc. Donc j'avais un espèce de passé antérieur. Et puis j'avais travaillé avant à Chambéry, où j'avais construit une ZUP, etc. J'avais une histoire de cette politique qui est devenue la politique des quartiers.
D'accord.
Donc cet ensemble de mesures, de procédures et de pratiques, Marie-Martin Rager, est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les premiers dispositifs de la politique de la ville ?
Voilà, alors moi, c'est vrai que je suis arrivée avec le premier contrat de ville qui avait été signé entre la ville de Marseille et l'État. Et ce contrat de ville, je dois avouer qu'il nous laissait une immense liberté pour travailler avec les habitants. Et il y avait quelques grandes lignes, mais surtout, il y avait des financements. Et donc, il y avait aussi le repérage des quartiers qui allaient être en politique de la ville. Parce que si la Busserine l'a été dès le démarrage avec ce qu'a expliqué Alain, il y en a toute une série d'autres qui ont été mis dans la politique de la ville à ce moment-là, dans les années 90. Et là, on a eu le premier ministre de la ville qui était venu à l'espace culturel Busserine. Je pense que vous vous en souveniez, Delbar. Et il est venu en 90 et c'était le moment où la ville de Marseille traînait à mettre ses chefs de projet en place. Et là, à mon grand étonnement, parce qu'on m'avait dit « vas-y vite, tu vas être nommé, mais bon, c'est pas encore fait, il faut que vous vous montriez », les partenaires du quartier avaient fait une pétition pour demander des chefs de projet. Et je me suis dit « Ouh là là, il y a une attente dans ce quartier extraordinaire, tu vas les décevoir et ça va être terrible ». Et puis, ben, ma foi, non. Et pourquoi décevoir ? Parce qu'aussi, l'argent de la politique de la ville qui était réservé au seul quartier de la Busserine et du Grand Saint-Barthélemy, il a dû être émietté entre tous ces quartiers qui étaient repérés comme tels. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Au contraire, le partenariat avec les associations s'est construit petit à petit. Et c'est vrai qu'à cette époque, on avait l'autonomie de partir de ce que souhaitaient les habitants et non pas des thématiques institutionnelles qui se sont imposées petit à petit après. Et ça, ça a été pour moi une période assez extraordinaire.
Donc on peut dire que la politique de la ville, en quelque sorte, a apporté des remèdes à un profond malaise socio-économique des quartiers, un complément aux autres modes d'intervention, puisqu'il y avait déjà d'autres politiques qui étaient mises en place, et un élément de réforme des politiques en fait, publiques. Zoubida Meghani, de votre côté, comment a été ressenti ces premières mesures,
Moi, je me rappelle qu'il faut reparler aussi, il y avait toute une effervescence en 81. Il y avait la liberté d'expression pour les gens issus de l'immigration et qui avaient une nationalité étrangère, donc il y avait l'autorisation de s'auto-organiser en association, de présider des associations. Et il y avait aussi toutes les radios libres qui se sont mises en place. La liberté d'expression était vraiment, c'était un boom dans les années 81. Radio Gazelle s'est créée, Galère, je crois, juste après. Il y avait donc nous, les assos, on a monté des assos de jeunes des quartiers. On était jeunes à l'époque.
La Sûre.
Il y avait La Sûre. Il y avait Boudi Ensoul juste après. Après, il y a eu Sheba avant 90, juste après, 84. Nous, comme on était animateurs sur le quartier, on encadrait tout, donc on avait plein de projets. Et je me rappelle, quand tu as parlé, Alain, de l'histoire du jeune Lawari qui a été tué, de suite après, il y avait la protection judiciaire de la jeunesse qui a encadré tout le quartier. Et je me souviens que nous, on proposait des projets. Donc là, c'est là où on a inventé la guinguette. Et moi, je me souviens que j'avais fait une proposition, artistique. C'est-à-dire, il y avait tout le cinéma de plein air qui maintenant... il y a l'Alhambra qui le fait, d'autres qui le font. On a inventé ce concept et avec les habitants pour qu'il y ait quelque chose qui se passe l'été. Il y avait la fameuse colo de quartier entre animateurs à monter parce qu'on avait une asso de jeunes aussi, donc on était derrière. Et il y avait aussi donc la guinguette. On a contribué à créer la guinguette et l'espace culturel Busserine. Donc on a été quand même acteurs. Mais ce qu'on vivait là, dans certains quartiers de France aussi, ça se vivait. Mais c'est vrai que nous, on était toujours en laboratoire. On se voyait avec des journalistes du monde entier, de Paris. Et comment vous avez fait pour vous organiser? Pourquoi ils nous posent ces questions? Donc il y a eu toute cette dynamique. Et en fait, aussi les animations cantines, parce qu'en Europe, on a fait un stage. On s'est retrouvés tous en stage, une formation. Là, on a connu des acteurs institutionnels à l'époque. Comment ça s'appelle? Marie-Geneviève Martin. Non, pas elle. Elle était éducatrice. Elle, on était. On travaillait avec elle. C'est autre chose. Elle était éduque au club de prévention. Martin, comment ça s'appelle? Anne-Marie, comment ça s'appelle? Il lançait des stages après l'histoire de Schwartz. Il y a plein de stages qui sont ouverts, en fait. Et nous, on avait un stage et on s'est retrouvés plusieurs. Donc, c'est comme ça qu'on a créé
Marie-Jeanne
La
Rosière.
Non. Il y a Marie-Jeanne La Rosière, c'était la guinguette. Oui. Mais en fait, tout ce concept, après, ce qu'on peut dire, jusqu'en 85, 87, 87. Et aussi, on a été révélateur de dysfonctionnement, c'est-à-dire, on nous interpelle. Par exemple, je faisais partie du comité de jeunes. Par exemple, les bourses vacances autonomes. Elles ont été inventées par la mission locale d'Eschriver, Robert d'Eschriver. Robert Moncorgé. Et d'Eschriver, c'était, rappelle-toi, de directeur de mission 4. Donc, un groupe, on siégeait dans des commissions. On faisait partie de la mission locale, on avait le regard des jeunes, ce qui n'existe plus aujourd'hui, pour dire qu'on était en avant-garde. Et on faisait la commission des loisirs jeunesse qui existe aujourd'hui, les VVV, les villes, vie vacances, beaucoup d'assos, centres sociaux font des demandes. On était expérimental ici. Et du coup, on était aussi un comité de jeunes. Donc on amenait nos idées. Et il y avait vraiment, comme le rappelle Marie-Martin Agé, c'est-à-dire cette interface y allait entre les habitants, les jeunes. Il n'y avait pas beaucoup d'assos, faut remettre aussi. Hein. Donc après les années 90, sont arrivés les chefs de projet, structuration,
justement,
etc.
On va revenir.
Je vais revenir sur l'historique.
Nous, on était acteurs. Hein. Ouais.
Je vais revenir sur l'historique, Marie, Alain, par rapport à vos fonctions. En tant que chef de projet, vous étiez plus... j'ai remarqué que vous étiez plus acteur quand je vois que les chefs de projet d'aujourd'hui n'ont pas la même fonction. Comment c'était que chef de projet? Est-ce que vous étiez plus... comment vous expliquez ça? Décideur de, que les chefs de projet d'aujourd'hui.
Farid souligne en fait qu'il y a eu plusieurs étapes dans le cadre de la politique de la ville et que le pouvoir que vous pouviez avoir à l'époque n'est pas le même qu'aujourd'hui.
Alors, je vais peut-être donner l'explication institutionnelle parce qu'Alain, lui, il n'est plus. Mais en fait, on était comandaté et cette notion de comandatement était extrêmement précieuse. C'est-à-dire que les signataires du contrat, qu'ils soient de la ville de Marseille, de l'État, après la région quand elle s'y est mise, avait le même pilier, le même maître d'œuvre qui était le chef de projet. Et ce chef de projet venait d'une association le plus souvent, ce n'était pas un fonctionnaire. Et donc du coup, on avait une liberté de manœuvre parce qu'on rendait compte non seulement à l'élu, mais aussi au sous-préfet à la ville, mais aussi à la région, et aussi aux habitants et au fonds d'action sociale qu'il ne faut pas oublier parce que Dieu sait qu'il a joué un rôle important. Donc ce commandatement qui s'est perdu malheureusement au fil des années nous donnait une autonomie, une liberté de parole qui s'est perdu petit à petit avec la municipalisation des chefs de projet.
Alain, tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, je crois que cette autonomie était un élément essentiel qui avait défini le métier de chef de projet. C'est-à-dire, il était à la fois porte-parole d'un certain nombre d'habitants et en même temps mandaté par les institutions. Alors moi, c'était encore pire, si je puis dire. C'est-à-dire que j'étais quasiment un petit peu seul ici. Et j'étais directement mandaté par Gaston Defer, maire de Marseille, et son secrétaire général, auprès duquel j'étais le seul à rendre compte. C'est-à-dire que tous les services, toutes les administrations, etc., ici, je passais par-dessus, y compris parfois au niveau national, où j'obtenais des financements. Donc c'est vrai que pendant quelques mois, quelques années, on a eu une autonomie encore plus grande que ce que décrit Marie-Martin Hergé, et c'est ce qui a permis de faire un certain nombre de choses que nulle part ailleurs on a fait. Alors je reste un instant. Moi, ce qui me semble le plus essentiel de ce que j'ai pu faire, entre guillemets, grâce à cette capacité de mandat du maire de Marseille, c'est la question relative aux expressions culturelles les plus variées, les plus diversifiées dans ce quartier. Et ça, je pense que ce soit les problèmes de la chorale avec Marie...
Marie-Jeanne
de la Rosière, etc., que ce soit les problèmes au niveau du dessin, au niveau du théâtre. Alors, j'ai un souvenir extraordinaire que je ne vais pas raconter ici, mais sur la manière dont le théâtre des Flamands, hein, lorsqu'on s'était retrouvé pour défendre au tribunal monsieur Mohamed El Guetta, hein, il avait le responsable du théâtre des Flamands, qui s'appelait à l'époque...
Moussa Maskri.
Après que Mohamed El Guetta ait été mis en sans aucune inculpation, est ressorti et a interpellé la juge en lui disant des choses extraordinaires. Madame le juge, vous ne voulez pas me donner votre vêtement parce que moi je vais jouer au théâtre des Flamands, je vais jouer le juge, le magistrat. J'ai des sous. Rien que ça, moi. mais la multiplicité des initiatives qui restent encore ici et qui sont très, très. Qui étaient beaucoup, beaucoup moins coûteuses que n'importe quel travaux de réhabilitation que je vois qui se poursuivent 40 ans après, c'est ça qui reste, c'est ça l'essentiel, c'est la capacité qu'on a donnée à ces hommes, à ces femmes, de se donner des moyens d'expression musicaux, théâtraux, livres, le livre, et ici on en est un exemple criant. Hein. Le reste, j'allais dire, c'est du superflu, et d'ailleurs j'y reviendrai si nécessaire tout à l'heure, ça ne sert plus à rien.
Après cet essentiel souvenir dont nous parle Alain Fourest, nous allons proposer une pause musicale et reprendre de suite après.
Pour un accouchement, hôpital plongé dans le noir. On l'opère ventre ouvert, le soleil comme lumière. Ça finit en enterrement, l'éducation en ruine, réussite en faillite. L'espoir jette l'éponge, ils retournent leur veste dans le mensonge. Le masque tombe, mime les singes. Regarde-les, pas gagner-les, la walawe. La place est bonne sur le trône, égoïsme leur moteur. Ils soignent les leurs ailleurs, envoient leurs enfants dans les grandes écoles. Laissent le peuple sans enseignants. Gouvernement aveugle, les nuits sans lune allument ton portable. Ce n'est pas une fable, une parade aux mains des bons goûts.
Ma bébé,
épidémie intarissable, on marche sur la tête depuis un demi-siècle. À quand la révolution mentale?
Gagné Nanzaya, Bokoko, Ngabi Nanzaya. Gagné Nanzaya, Bokoko, Ngabi Nanzaya. Tahadi Bom Siri, Wantumwa, Ngabi Nanzaya. Bokoko, Ngabi Nanzaya. Gagné Nanzaya, Bokoko, Ngabi Nanzaya. Gaminanzaya, Bokoko, Gaminanzaya, Tahali Bom Siri, Wantumwa, Gaminanzaya, Bokoko, Gaminanzaya.
changement de décor. Imagine sans figure devant sa glace. Hostile se regarde en face, à force de répéter sa farce. Le clown joue son rôle, plane dans les bains de foule, joue les stars en couple. Sont-ils pour le peuple ou les people? Sont-ils libres de leur dessin? Des nains de jardin aux mains des invisibles. Mère bonne aventure, leur lit l'avenir, joue notre futur à coups de poker. Dame liberté crucifiée au barbelé, saigne des larmes, jeunesse sacrifiée. Chômage en héritage, diplôme plein des bagages, une pousse tente le voyage. Le repasse à misère, clochard mourant en rue d'hiver, la rue gronde. Les dindes restent sourdes dans leur tour d'ivoire, un jour le peuple reprendra le pouvoir.
Gami Nanzaya, Boko Kong, Gami Nanzaya. Gami Nanzaya, Boko Kong, Gami Nanzaya. Tahali Kumsi, Wachumwa, Gami Nanzaya. Boko Kong, Gami Nanzaya. Gami Nanzaya, Boko Kong, Gami Nanzaya. Gami Nanzaya, Boko Kong, Gami Nanzaya. Tahali Kumsi, Wachumwa, Gami Nanzaya. Boko Kong, Gami Nanzaya. Gami Nanzaya, Boko Kong, Gami Nanzaya. Gami Nanzaya, Boko Kong, Gami Nanzaya. Tahali Kumsi, Wachumwa, Gami Nanzaya. Boko Kong, Gami Nanzaya. Gami Nanzaya, Boko Kong, Gami Nanzaya. Gami Nanzaya, Boko Kong, Gami Nanzaya. Tahali Kumsi, Wachumwa, Gami Nanzaya. Boko Kong, Gami Nanzaya. Gami Nanzaya, Boko Kong, Gami Nanzaya. Gami Nanzaya, Boko Kong, Gami Nanzaya. Tahali Kumsi, Wachumwa, Gami Nanzaya. Boko Kong, Gami Nanzaya. Gami Nanzaya, Boko Kong, Gami Nanzaya. Gami Nanzaya, Boko Kong, Gami Nanzaya. Tahali Kumsi, Wachumwa, Gami Nanzaya. Boko Kong, Gami Nanzaya.
Voilà, toujours au sein du comité Mamega, les Échos de la Busserine, réalisés et produits par le comité Mamega et Radio Galère, en présence de Marie-Martin Ranger, en présence de Zoubida Megheni et Alain Forest, qui est là aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai la chance de co-animer l'émission de radio avec Jean-Pierre. Et juste pour vous dire que le ministère de la politique de la ville, aujourd'hui, avec l'état actuel, voilà, ça a changé de nom, ça s'appelle le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec la collectivité des territoires. Voilà, je tiens à le préciser, c'est important. Je ne sais pas s'il y a un truc à dire par rapport à ça. Alain.
On y reviendra tout à l'heure.
Ouais, ouais. Moi, je peux dire que, enfin, c'est une expérience personnelle, alors on ne va pas généraliser, mais la politique de la ville est morte, entre guillemets, depuis déjà de nombreuses années. Parce que ce qui avait été écrit, proposé et mis en œuvre de façon très, très expérimentale à Marseille et dans quelques autres quartiers...
On y reviendra, Alain, si tu
veux bien. Pratiquement, tout ça a quasiment disparu.
Dans le bilan, on reviendra. Bon. Avant de parce que je trouvais que c'était un élément très intéressant que tu nous dis, mais je préfère qu'on revienne un petit peu en arrière, si ça ne t'embête pas avant. Sur les grandes étapes de la politique de la ville, on va dire que de 1981 à 1983, invention de la procédure du développement social des quartiers. Ensuite, 84-87, la consolidation de la politique contractuelle. 1988-93, l'institutionnalisation...
C'est pas grave, Jean-Pierre. Ouais, continue, vas-y. C'est pas grave, on continue.
Et développement d'une politique publique.
Et alors
1994-97, un nouvel...
Bon,
c'est pas grave, on va continuer.
Désolé. Un nouvel outil
au service de la politique de la ville. Quels sont les acteurs de la politique de la ville, qui ont mené ces outils-là.
Voilà. Alors, moi, simplement, je rappelle l'historique puisqu'on est toujours là.
Exactement.
J'ai passé 3 ans ici à essayer de comprendre, de connaître, d'assurer un certain nombre de relations avec des hommes et des femmes et des enfants de ce quartier. Et c'est en effet le meilleur souvenir que je garde de cette période-là. Puis, pour des raisons, j'allais dire, à la fois politiques et techniques, le maire de Marseille, à un moment donné, après les élections municipales pour lesquelles il y avait eu de graves inquiétudes Et notamment, la première arrivée de ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême droite, le Front National, puisque dans certains quartiers, il y avait eu...
Quelle année, Alain ?
Alors, 83.
Ah, 83. Lors de la marche aussi, c'est ça ?
Voilà. Alors, je crois, c'est ça, oui. À ce moment-là, pour des raisons diverses, mais j'allais dire parce que j'avais, avec l'action que j'avais menée, j'avais soulevé une très grande hostilité d'un certain nombre d'adjoints du maire de Marseille, que le maire m'avait dit, cela, tu t'en occupes pas, je vais directement à moi. Donc ces élus, évidemment, se sont un tout petit peu révoltés et ont trouvé moyen, le lendemain des élections, de me trouver une autre solution. Alors l'autre solution, c'est, s'est faite par un coup de téléphone de Michel Delbarre, qui était à l'époque directeur du cabinet de Mauroy, Premier ministre,
ouais.
À de faire en disant, il y a un gars là qui commence, qui a un peu d'expérience, envoyez-le-moi. Et je me suis retrouvé comme ça à Paris, responsable de la politique de la ville, à l'époque encore, du Bedou, puis après d'autres élus, etc. Donc j'ai été parachuté. J'avoue que j'ai à la fois beaucoup regretté d'avoir quitté le terrain local, mais en même temps, c'est vrai, avoir appris le fonctionnement interministériel, national, etc., et compris qu'il y avait d'autres terrains très difficiles dans d'autres quartiers, ça m'a beaucoup aidé. Ceci étant, je n'ai jamais, comme mon témoignage aujourd'hui, cesser de garder des relations directes, quotidiennes, amicales. J'en ai voisin ici, entre autres, hein, avec le quartier. Et pour moi, c'est l'essentiel de mon souvenir, j'allais dire.
Jean-Pierre.
Marie, est-ce que tu peux revenir sur ces différentes étapes de la politique de la ville ? Est-ce qu'il y a des changements importants qui apparaissent ? Et quels ont été qu'est-ce qui te paraît le plus important dans cette période-là ? Quels sont les le champ d'intervention qui te paraît le plus important ?
Ben, écoute, moi je suis sur des périodes un peu plus longues, un peu plus récentes, bien que lointaines, que Alain et Zoubida qui rappellent les années 80. Mais moi, ce que j'ai connu en 90-2000 et jusque vers 2017, ça a été surtout la coupure qui s'est faite entre d'un côté l'associatif et le social et de l'autre côté la rénovation urbaine. Et ça s'est mis en place en 2003, avec l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et c'est vrai que là, patatras, ça a commencé à foirer. Parce que d'un côté, on avait le dur, hein, la rénovation, la restructuration des espaces publics, la création d'équipements. Et de l'autre côté, on a eu les contrats urbains de cohésion sociale qui ont complètement émietté le sens de la politique de la ville. Et ça a été très regrettable, même si aujourd'hui les collègues essaient d'avancer dans les deux côtés. Mais ça a été une coupure, et que les acteurs de terrain ont d'ailleurs senti.
Ah oui.
Alors, en même temps, ça s'est passé en 2003, mais le contrat 2000-2006 a eu le mérite de faire signer non seulement l'État, la ville de Marseille, la région, mais aussi le département. Et ça, il y a eu un moment, quand on a préparé ce contrat de ville en 2000, parce qu'il était signé courant 2000, il y a eu un moment assez extraordinaire où tout le monde travaillait ensemble. Et ça aussi, alors pour Marseille, ça a été une chance. Bon, ça n'a pas duré, malheureusement.
Est-ce que ça a eu un impact financier pour la structure associative ?
Alors, ça n'a peut-être pas eu un impact financier, oui, parce qu'il y avait quelqu'un de plus qui mettait la main au portefeuille, mais ça a surtout eu cohésion dans l'appréhension du tissu associatif. Je ne sais pas, Zoubida, si tu serais d'accord avec ça, mais ça a notamment permis de régler des problèmes. Alors, j'ai le souvenir d'une réunion publique à la Caillole où il y avait vraiment des troubles très, très forts. Et la réunion publique a permis de régler la situation et de repartir d'un bon pied. Quoi, voilà.
Alors moi, ce que je, au niveau de moi, en 98, je suis entrée professionnellement à la politique de la ville parce que j'avais un idéal, c'était de servir entre parenthèses les quartiers. Donc j'ai toujours eu envie de faire ce type de travail parce que moi je suis plutôt formation sociale, je dirais socio-économique, et donc moi je voulais, ça me paraissait important que des gens comme nous en bas apportent leur expertise et leur façon de voir, avec une vision différente. Et donc c'est vrai, en 98, je suis arrivée à Poitiers de la Ville, mais ce qui existait, que je trouvais intéressant, c'était le forum des habitants, où en fait, ils participaient au bilan, Et il y avait l'auto. En fait, les habitants, ils étaient libres. Parce qu'aujourd'hui, on parle des conseils citoyens, mais pour moi, c'est niveau plus bas. Et en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie collaboration avec le chef de projet, son équipe et les habitants parce que, et les associations. Il y avait des vraies réunions, des micro-cités où, franchement, je me rappelle, ils finissaient à 11h du soir.
Comment ça s'est déroulé, voilà,
exactement. À 11h du soir. Et ce qu'elle disait, les réunions publiques, c'est vrai que comme beaucoup de bénévoles et tout, c'était le soir. Mais ça commençait à 19h, 20h, ça finissait à 23h. Et il y avait le préfet délégué qui venait à la petite ville, parce que c'était pas. Ça s'appelait. Il y avait encore l'Henri ou pas à cette époque ?
2003 l'Henri.
Voilà.
2003 l'Henri.
Donc, est-ce que ces alliances-là ont été prises en compte ?
Ben moi, je trouve justement le problème qu'il y a, vu d'un côté militant certif et de l'autre côté, parce que de regard, je trouve que c'est devenu un gros sac de nœuds, dans le sens c'est à chaque fois, ils rajoutaient un dispositif. Ils n'avaient même pas terminé de mettre en œuvre et, des dispositifs qu'ils en mettaient d'autres. Donc, on comprenait. Enfin,
on comprenait
c'est comme
plus
ça
rien.
Que Bodhi Ensoul a fermé la porte a été liquidé. Il y a beaucoup d'associations entre 2006.
Comme je t'ai compris, c'est des technocrates qui n'avaient rien à voir avec le territoire, qui venaient avec leur projet. Et grâce à des acteurs comme vous, parce qu'il y avait des habitants, il ne faut pas oublier qu'il y a un taux d'illettrisme dans ces territoires-là qui ne date pas d'aujourd'hui. Là, comment expliquer ça ?
Non, jusqu'en 2006, franchement, même en quelle année ? En 2019, jusqu'en 2006-2008, je peux dire quand même encore le contre-pouvoir. Même il y en avait beaucoup trop. Parce que tellement ça. Par contre, c'était un appel d'air, là, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes s'organiser, des assos pour demander des subventions. Après, on a eu toutes les dérives après aussi, il faut le reconnaître. Mais où ça s'est politisé. Vraiment, où là, le politique a mis son nez trop dedans, et là, c'était pas bon. C'est-à-dire parce qu'il y a un acteur dans le fameux triangle. Bon, tu as les techniciens, tu as les élus, et tu as les habitants. Les habitants, c'est représenté soit par des assos, soit eux-mêmes. On l'appelle le fameux triangle. Et le triangle, et dès que le politique est trop rentré dedans, c'est vrai que là, on a vu des dérapages. Et en fait, il y a eu des soucis. Et puis, et même, ils disaient, oui, montez-vous en association. Il y avait des contrats aidés aussi, beaucoup d'aide. Il y avait d'autres dispositifs que les quartiers comme ça pouvaient avoir droit parce que ça rentrait dans le cadre des gens qui n'avaient pas les moyens. Enfin, il y a tout un calcul qui a été fait. Donc nous, on a vu des quartiers en bénéficier. Et c'est là où on a eu des dérives, des dérapages, où là, ça a servi politiquement à certains. Et là, c'était dommage parce que ça a gâché tout le travail, je dirais, de développement social urbain. Et moi, je préférais quand on l'appelait DSU. Parce que ça correspondait plus à la problématique des quartiers et ce qu'on voulait faire que l'appel aujourd'hui. Après, c'est passé en CUX. Et après, c'est passé. L'Henri, ils l'ont sorti, mais l'ont remis maintenant. C'est devenu le pan de la politique de la ville depuis ce dernier contrat de ville. Mais n'empêche que. Il n'y a pas. C'est comme les conseils communaux de prévention de délinquance. Il y avait des gens représentant les habitants, ils les ont levés parce que, après, ça devenait trop confidentiel. Et puis, il faut reconnaître, chef de projet, ils avaient peur. Et puis, moi, je pense que la politique de la ville a été instrumentalisée, que ce soit. L'outil, c'est-à-dire les équipes, chef de projet, son équipe, ou que ce soit les habitants ou les structures associatives. Voilà.
Alain, qu'est-ce que tu pourrais rajouter par rapport à ce qu'ils ont dit ?
Juste termine. Oui. Moi, je trouve le côté politique, ils ont vu que c'était un vrai outil pour eux.
D'accord.
Et là, c'était pas bon. Voilà.
Et rajouter, si je peux me permettre de et pourquoi ils changent chaque fois de nom comme ça, DSU, CUX, et j'ai pas compris cette philosophie-là de ces.
C'est une manière de noyer le poisson. Alors moi, je suis un peu plus radical parce que j'ai plus de contraintes de parole, donc je peux dire ce que je veux dire et ce que je pense depuis un certain nombre d'années. La politique de la ville en tant qu'outil de développement social des quartiers a quasiment disparu, au moins à Marseille, depuis déjà un certain nombre d'années. Il y a encore les structures apparentes, hein. Il y a éventuellement quelques argent, pas beaucoup, de moins en moins. Il y a encore le discours, mais du point de vue politique, les choses ont très mal tourné, comme vient de le dire ma voisine. Alors, Marseille est un peu une exception dans le pire des solutions. C'est-à-dire qu'à l'échelon national, il y a quand même quelques villes, pas beaucoup, qui ont appris ce que c'était que la politique de la ville, que l'ont mis en œuvre, et qui continuent doucement à essayer. Je pense à Vaux-en-Velin, par exemple, voire aux Minguettes, où il y a des choses qui se sont faites, etc. Voilà, voilà. Il y a quand même pas mal de lieux à Nancy, à Strasbourg, où certains maires ont fait ça. À Marseille, plus qu'ailleurs, il y a une espèce de conjonction entre la déroute nationale qui a vu, par exemple, un nombre suivant de ministres se succéder, de Tapie, à Simone Veil, en passant par Borloo, etc. Enfin, j'en cite, mais il y en avait tous les deux, tous les quelques semaines. Enfin, ça changeait chaque fois qu'il y avait un ministère. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on n'a plus parlé de politique de la ville. On a trouvé des mots, on a trouvé des formulations. Il y a la technocratie qui a pris le dessus parce qu'il fallait. On disait qu'on dépensait trop d'argent. C'est une erreur absolue. On n'a jamais, jamais, jamais dépenser des sommes soi-disant inscrites au budget, mais il n'y a jamais eu de sommes importantes mises dans les quartiers urbains qui nécessitaient
justement,
des solutions immédiates.
Justement.
Donc là, il y a une erreur fondamentale. Et à Marseille, c'est encore pire qu'ailleurs. Je veux dire pire qu'ailleurs parce que déjà, le processus avait été engagé, j'allais dire de façon modeste, par Defferre, ou du moins ses successeurs, et notamment Vigouroux, qui s'en foutaient complètement. Moi, j'ai travaillé, j'étais encore un peu responsable à ce moment-là. J'ai essayé de faire venir des responsables. Vigouroux s'en foutait absolument. Et on dit Vigouroux, c'était un maire extraordinaire. Non, c'est un monsieur qui ne concernait que lui, que ce qui se passait chez lui et que ce qui se passait autour de lui avec des photographes, etc. Après, évidemment, Godin n'a fait qu'en rajouter. C'est-à-dire qu'on a fait semblant. On a créé des chefs de projet. J'allais dire, quelquefois, ma seule fierté, si je puis dire, c'est d'avoir été à l'origine de la création d'un certain nombre d'emplois, entre guillemets, avec les chefs de projet un peu partout en France. Mais je veux dire, je n'en suis pas très fier, parce que si c'est pour faire ce qu'ils sont en train de faire, hélas, aujourd'hui, c'est un petit peu dommage. Alors, c'est
justement
un peu radical, mais c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, soit ne parlons plus jamais de politique de la ville, en plus, les problèmes de périmètre. Quand on est passé de 18 quartiers en 1981-82, puis à 150, puis à 200, et maintenant à je ne sais pas combien de DSU. 400. Marseille, par exemple, l'exemple type de cette espèce de folie de se donner des lieux théoriques avec des périmètres complètement... Le DSU, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, ça représente un tiers de la ville. C'est totalement absurde, parce que comment, avec ça, peut-on faire une politique ciblée avec des moyens particuliers sur les endroits les plus difficiles ?
Justement, cet esprit critique par rapport à cette réalité-là. Est-ce que vous ne pensez pas que la politique de la ville a pénalisé, d'une certaine façon, la vie associative ? À travers ces financements spécifiques, j'ai souvenir que beaucoup d'associations culturelles ne pouvaient obtenir de financement de la DRAC, donc, parce que justement, ils avaient des financements spécifiques. Et parallèlement à cela, des structures comme des théâtres, des scènes nationales avaient à la fois raflé à la fois tous les financements culturels de la DRAC et aussi des financements qui n'étaient pas moindres de la politique de la ville. Est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de distribution caduque ou incohérente qui pénalisait les uns et avantageait les autres qui pouvaient manger un petit peu à tous les râteliers?
Enfin, moi j'ai une vision un peu différente peut-être de la tienne, Jean-Pierre, hein, parce que bon, mais pour moi, il y avait quand même dans ce milieu culturel une certaine coordination et une articulation à faire entre le réseau de proximité des associations culturelles de proximité et puis des scènes nationales qui pouvaient accueillir des résidences, etc. Bon, après la question, est-ce que la politique de la ville a tué les associations ? C'est difficile d'y répondre. Moi, je sais que je suis arrivée comme chef de projet à un moment où l'association, c'était le moyen pour des personnes d'avoir un emploi. Il faut bien dire ce qui est. Et c'est vrai que le Fonds d'action sociale, devant le barrage qui était fait aux jeunes issus d'immigration par rapport à l'emploi, avait trouvé cette façon de faire émerger des jeunes qui en voulaient et qui, de cette façon-là, arrivaient à quand même à prendre un peu l'ascenseur social et à... Donc c'était un peu détournement ça aussi, hein, de la vocation associative. Après, bon, est-ce que, moi, je crois qu'ici, dans ce quartier, et c'est ça qui fait plaisir, il y a quand même une culture de base qui s'est acquise au fil des années, et on ne peut pas faire n'importe quoi, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, tout le monde se lève, et ça, association loi de 1901 ou pas, ben, c'est acté, c'est acquis, c'est gagné.
Il y a quand même aussi une autre, moi j'ai une autre lecture, j'ai le souvenir d'une génération de techniciens, de personnes diplômées, DEA, DESS, qui, eux, ont fait le choix, devraient dans la vie associative s'engager, justement, pour des raisons de volonté, de militantisme. Et parfois, cette professionnalisation du secteur associatif était confrontée à un manque de compétences de techniciens qui étaient de l'autre côté, qui étaient dans le milieu institutionnel.
Zoubida.
Non, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on nous il faut voir que c'était quand même... Il y avait une jeunesse importante. On est seconde génération de l'immigration, ou des milieux ouvriers, hein, même ceux qui venaient des campagnes françaises. Donc, nous, la plupart, c'était des ouvriers. Après, il y a eu le problème de l'emploi dans nos quartiers. Le chômage, à se créer Calis. C'est énormément de monde en 94. Moi, j'avais monté le Secours Populaire, la première antenne. Moi, j'étais dans l'antenne. J'avais ma carte départementale avec celui qui est mort il n'y a pas longtemps. C'est venu en personne ici. Donc, il y avait tout. Il ne faut pas oublier qu'il y avait, quand même, au niveau économique, violente.
Je confirme.
Des centaines de personnes qui étaient licenciées. Ouais. Le port aussi, le port autonome, etc. Et nous, on est, nos parents, ou alors ils étaient ouvriers et ils arrivaient à 50 ans, ils pouvaient travailler, ils étaient démolis, donc se retrouver en longue maladie. Moi, c'était le cas de mon père, tu vois, des problèmes de santé graves, et on était en difficulté. Donc même beaucoup, ils n'ont pas fait d'études, ils ont fait le bac et plus, 2 ans. Si je prends, j'en connais un paquet, on a arrêté parce qu'on était obligé d'aller travailler aussi. Donc ça, on faisait des stages de formation rémunérés. C'est là où on s'est retrouvé à la fameuse stage. On a créé quand même les animations cantines. Il ne faut pas l'oublier. Elle a été repris à son compte par la ville de Marseille. Et on a fait beaucoup de choses. Et le truc, c'était une volonté de travailler dans ces quartiers pour amener autre chose. Mais aussi, on nous promettait. De l'autre côté, je termine. Ce que je veux dire, c'est qu'on nous promettait des postes importants. Et quand on s'est rendu compte qu'on ne nous voulait pas, c'est-à-dire qu'on renvoyait l'image des pauvres, des ouvriers, parce que c'était soi-disant de gauche, de faire et tout. Mais ils aimaient pas. Ils nous aimaient pas, même quand on inscrive des gens pour être animateur, après toi tu fais une intervention pour être encadrant dans les colonies marseillaises de la ville, ils y prenaient pas.
D'accord.
Ils voyaient les noms. On était quand même confrontés au logement. Nos parents, ils étaient assignés à résidence parce que même s'ils demandaient un logement, il y avait. On était obligés de travailler, en fait. Les gens, ils ne s'en rendent pas compte. On ne faisait pas d'animation, hein, c'est faux. On travaillait sur la question du racisme. Le fonctionnaire, rappelle-toi, Alain, par rapport à mes parents, il y a des gens. Et donc, quand on testait, on le testait directement. Il y avait des agents en fonction publique ou parapublique qui barraient la route. Même si tu postulais à des postes, même si tu avais le niveau, ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est moins quand même. Tout ce qu'on a dit il y a 30 ans, moi, je me rappelle, je disais à la DAP, il y a du racisme. On veut, on est dans un état. Disputé à cause de ça, tu es dans un état laïque. Avec Anne-Marie. J'ai dit arrête de dire, on a discrimination. Et 20 ans après, ils ont fait un rapport, on est discriminé par classe, d'origine. Algérien, Sénégalais, machin, tout
est-ce
fait.
Que.
Là, on avait des soucis quand
Marie,
même.
Marie, Alain.
Et le Front National aussi, alimenté.
Donc concrètement.
Est-ce que. Nous, on votait quand même. Si je peux pas. Permettre, c'est important. Est-ce que cette discrimination date de 40 ans jusqu'à aujourd'hui aussi? Aujourd'hui, tu le dis, on le voit d'une autre manière, mais est-ce que cette discrimination, elle est carmamboyante aussi aujourd'hui?
Elle est aujourd'hui. Pas, aujourd'hui, ce qu'on disait nous il y a 30 ans, ils nous dénigraient. Eh ben, ils ont fait des études scientifiques. On n'avait pas besoin d'études scientifiques. On l'aurait fait, on l'aurait trouvé. Ben, à part, on avait des acteurs comme Alain, comme Marie, comme d'autres, certains. Il y avait ils nous entendaient, mais donc c'est pour ça qu'ils croyaient à ce qu'on faisait, qu'ils nous soutenaient financièrement. La maison de la femme de Sheba, elle est partie avec l'idée de elle foncer. C'est-à-dire on avait, pour moi, on avait nos alliés et nos ennemis. Donc on avait des alliés et on avait des ennemis. En Amérique du Sud, c'est qu'ils disent soit tu as des alliés, soit tu as des ennemis. Et nous, on avait soit des alliés. Soit des ennemis. Et on était. Alors, si tu étais grande de gueule parce qu'on t'avait repéré, c'était foutu pour toi. Hein. Parce que la porte, elle était fermée. Fermée pour tout. Voilà, donc...
C'est, comme je te comprends, parce qu'il ne faut pas oublier, Zoubida, dans le cadre de la rénovation urbaine, c'est vrai que... Si je peux me permettre, les habitants ont fait un plateau de concertation, ils ont écouté mais ils n'ont pas entendu, malheureusement. C'est ce que, non, qui pose le problème. Juste avant de... vas-y, Alain.
Un mot, parce que ma voisine m'a rappelé un souvenir. En effet, lorsqu'il a été question de trouver un chef de projet et que sa candidature avait été posée, je me suis retrouvé en situation d'intervenir de façon extrêmement vigoureuse auprès du sous-préfet à la ville, qui lui était favorable. Mais il y avait l'opposition de la mairie de Marseille, M. Godin, hein, quand même. Et j'ai mis dans la balance, ou bien Zoubida allait être embauché comme chef de projet, ou bien je publiais Urbi et Torbi, la manière discriminatoire dont la mairie de Marseille se comportait. Ouais, donc ça a marché. Bon, on s'en souvient plus trop aujourd'hui. Mais je reviens un instant sur la question qui a été posée sur le rôle des associations. Moi, bon, d'abord... je reprends Godin encore, qui explique que tout va bien dans ces quartiers-là parce qu'il y a des associations. C'est une manière extrêmement scandaleuse de montrer que, soi-disant, les associations sont nécessaires et remplacent la politique urbaine. C'est absurde. Ceci étant, la question que tu posais, c'était de dire, est-ce que pendant cette période, ce n'était pas vraiment difficile de survivre, de créer une association, de trouver les moyens financiers, etc. Oui, c'était difficile, parce qu'à la fois, il y avait beaucoup d'initiatives, c'était très bien. En même temps, les financements, ils n'étaient jamais là où on voulait les avoir. Il y avait toute une série de procédures, des durs bureaux, des dossiers assez lourds à mettre en œuvre, etc. Et j'allais dire, paradoxalement, c'est parce que c'était difficile. Parce que pour ces habitants-là, qui n'avaient pas vraiment la manière de faire son dossier, de le pousser là où il fallait, mais ils avaient tellement la volonté de se battre, d'obtenir des résultats, que malgré tout ça, eh ben finalement, ça a continué de façon difficile encore. Je veux dire, c'est cette dynamique locale qui est sans commune mesure avec ce qui se passe dans n'importe quel quartier de Marseille, je pense par le quartier sud, mais pas seulement, hein, dans lequel, ou le centre-ville, dans lequel, dès qu'il s'agit de faire un effort pour monter une structure, ah oui, c'est trop compliqué, il faut des sous, alors on va évidemment vers le système clientéliste, qui a malheureusement aussi joué un rôle ici pas négligeable, dont on se souvient trop les conséquences dramatiques, mais je pense que les habitants de ces quartiers-là ont réussi à se sortir de cette dépendance à la fois clientéliste et financière pour dire, voilà, nous avons besoin de ça et nous l'obtiendrons. Et je pense que même si c'était difficile, c'est ça qui est la ressource essentielle de ce quartier, la capacité dynamique, au-delà des divergences, parce qu'on n'était pas tous d'accord. Hein. Avec ma voisine, on a quelquefois eu quelques difficultés, etc. Mais non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Mais globalement, c'est cette dynamique-là qui était essentielle.
On va faire une pause musicale et on se retrouve.
Je vous ai vu sauter dans la foule, je vous ai vu faire lever des mains et pour enfin en découdre, lancer la révolte en fermant le poing. Je vous ai vu chanter comme on aime, je vous ai vu danser comme on mène, trembler en sortant de scène. Vous aviez la sueur en commun et dans vos poches de forains, les mots qui font crier les foules et les notes qui défoulent. Pourtant je troquerai pas mon français qui sent la vinasse à plein nez, le bistrot du coin, la musette, les chants de la bande et la violette. Je resterai pendu à la moustache de celui qui m'a bercé les chansons subtiles aux potaches. L'accent c'est toi, le faux sourire gêné. Le Reggiani, sa peau plissée, le Moustaki, sa liberté. Je ferai peut-être valser un gavroche sous les lampions si je trouve un cordon pour qu'on les accroche. Mais j'ai aimé cramponner aux barrières qui passer par votre scène de la terre, me sentir au milieu du plein, sauter en rythme plus ou moins. J'ai écouté autant vos pieds frapper le sol, je l'avoue que vos paroles, le frisson parcourant vos mains, me suffira jusqu'à demain. On aura la sueur en commun et dans nos poches de forains, les mots qui font chanter les foules et les notes qui défoulent. Pourtant je troquerai pas mon français qui sent le vin rouge à plein nez, le bistrot du coin, la musette, les champs de lavande et la violette. Ce sera vin blanc sous les tonnelles, la retraite de mes rengaines. Moi je joue en fin d'après-midi et quand le soleil est parti, je vais me cramponner aux barrières qui séparent votre scène de la terre. Je vais écouter autant vos pieds frapper le sol, je l'avoue que vos paroles, on aura la sueur en commun et dans nos poches de forains, les mots qui font chanter les foules et les notes qui défoulent.
Toujours ici au comité Maméga, les écoles Abusserine, tous les derniers jeudis du mois, hein, au sein du comité Maméga, réalisé et produit par le comité Maméga et Radio Galère, en présence de Marie-Martin Ranger, Zoubida Meghini et Alain Forest, et Jean-Pierre qui va prendre la parole, qui co-anime l'émission avec moi. Jean-Pierre, je te laisse la parole.
Alors, dans le fond, on s'est arrêté sur les 30 piteuses dans les années 80, 90, 2000, 2010. En fait, vous parliez tout à l'heure de crise économique et nationale, donc de difficultés qui ont touché, mais qui ont forcément impacté la vie associative. Est-ce que dans le fond, après le recul, avec du recul, vous n'avez pas l'impression que les financements de la politique de la ville traduisent un manque de volonté réelle politique? Quand on voit la façon dont les financements sont ventilés et la période à laquelle les associations reçoivent l'argent, est-ce que dans le fond, ça ne traduit pas un leurre politique?
Alors moi, j'aurais envie de dire que le leurre, c'est de penser que les associations vont apporter un remède à tout. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on constate, c'est que les associations, elles font ce qu'elles peuvent, c'est absolument indispensable. Mais si les politiques publiques ne sont pas organisées pour lutter contre l'exclusion urbaine et sociale, les inégalités continuent à se créer et les difficultés persistent. Et quand tu dis, est-ce que ça traduit pas un manque de volonté politique? Oui, bien sûr, ça traduit un manque de volonté politique. Et si on était plus énergique pour mettre l'argent dans les politiques publiques de restructuration de ces quartiers, je pense qu'avec l'aide des associations, bien sûr, on s'en sortirait mieux.
Quand on voit que certaines associations qui bénéficiaient de financements de la politique de la ville ne pouvaient obtenir d'autres financements, car on leur disait la politique de la ville vous a déjà donné, donc vous n'allez pas avoir. Est-ce que ce n'est pas, quelque part, mettre en ghettoiser le secteur associatif à travers des financements qui sont de seconde zone, on peut dire, par rapport à des financements nationaux?
Alors, il y a à Marseille notamment ce qu'on a appelé le droit commun. C'est-à-dire dans les chefs de projet, les multiples chefs de projet, il y en a je ne sais pas combien répartis sur une partie de la moitié de la ville, il y avait des financements répartis entre chaque quartier particulier. Et puis en plus, il y avait ce qu'on appelle le droit commun. C'est-à-dire en dehors de ça, pour les crédits de la politique de la ville. C'est-à-dire on mettait de l'argent de côté pour distribuer ailleurs. Hein, ça s'appelait le droit commun. Une absurdité, c'est donc ces dérives des financements de la politique de la ville, à Marseille, encore plus qu'ailleurs, sont évidents. Le deuxième aspect qui est encore plus important, c'est que depuis Borloo, en fait, le premier rapport, le ministre de la ville, on a mis en place ce qu'on appelle l'ANRU. Agence nationale de rénovation urbaine. Et là, on a complètement dévoyé les objectifs de la politique de la ville en mettant essentiellement l'accent sur le bâti, ce qu'on appelle le hard, par rapport au soft, c'est-à-dire qu'on a dissocié, ce qui a été évoqué tout à l'heure, les financements lourds destinés à intéresser les bâtiments de travaux publics pour faire des travaux parfois inutiles. Je constate en venant ici que depuis 40 ans, hein, il y a des chantiers comme juste ce qui est là derrière qui ne sont même pas encore terminés.
Jusqu'à maintenant, effectivement.
Alors qu'on devait, à l'époque où j'étais en présence ici, on devait en faire un jardin public. Bon, il paraît que 40 ans après, ça va peut-être se faire. Mmh. Miracle. Mais je veux dire, tout ça, on a eu un retard. Enfin, la manière dont l'orientation de cette politique de la ville a été totalement dévoyée de son origine. Moi, je suis un de ceux qui ont toujours plaidé contre toute forme de démolition. Alors, je suis radical là-dessus. Je pense qu'il y a quelques exceptions, etc. Mais démolir des immeubles HLM aujourd'hui, c'est profondément scandaleux. Parce qu'une bonne partie de ces immeubles sont en bien meilleur état que ceux qui sont en train de s'effondrer dans
Exactement,
le centre-ville. Et pourraient, à condition d'avoir les moyens de faire des travaux d'intérieur. Mais surtout pas de démolir. Après, on appelle de mixité urbaine. Ah oui, à la Savine, on va démolir les tours et les bars parce que c'est pas beau. Et puis on va faire venir des classes moyennes. Mais c'est absurde. Dans aucune ville, on lance de procédures de cette manière-là. Alors l'ANRU est une vaste connerie, est une vaste, tromperie, hein, pour l'ensemble. Alors certains maires ont réussi quand même à utiliser ces crédits-là pour faire autre chose. Pour améliorer en effet certains immeubles, et c'est nécessaire. Mais globalement, l'idée qui consiste à dire on va démolir pour reconstruire, forcément bien plus cher, hein, et pour reconstruire pour des gens qui ne sont pas là, mais qu'on va faire venir, voilà une théorie de l'ANRU que je combats depuis des années, Borloo et compagnie, et Marseille s'enorgueillit depuis des années d'avoir beaucoup d'argent au titre de l'ANRU. On a des plaquettes, on a des documents, on fait des travaux. Mais les documents qu'on voit aussi sur les modifications des cités, tout ci, par-ci, par-là, moi, je les ai vus depuis 40 ans, c'est les mêmes. Hein. Alors, on finit, de temps en temps, on bouge un petit peu. Ah oui, on fait la L2, on la transforme, on fait pas... Mais c'est une catastrophe, c'était pour les habitants du quartier.
Ouais, c'est vrai.
Tout à fait. C'est très bien. On a mis le paquet des milliards, hein, privés, y compris publics, pour faire que cette autoroute passe à travers le quartier, que ce qu'on a fait, le dixième de cette somme avait été mis à faire un vrai travail de politique de la ville dans ce quartier-là, on n'en serait pas là.
Alain, juste par rapport, c'est intéressant ce que tu dis, par rapport à la Rocadelle de Nord, c'est un projet de 1932, et il y a eu des études, il y a eu combien d'argent de dépensé en tout par rapport à ces études-là. Je me dis, c'est phénoménal. Quand je vois ça, je me dis, il y a vraiment un gros, gros, gros problème.
C'est tout pour la voiture et rien pour la façon dont les habitants peuvent se déplacer, aller travailler à Vitrolles, à Marignane ou ailleurs et en centre-ville. Donc on a là une impasse radicale sur le problème des rôles des transports publics. La voiture privée, c'est ce qui a fait, je veux dire, la pire des transformations de ce quartier, c'est à cause du financement de la voiture privée, c'est-à-dire de la rocade, pour que les gens, soi-disant, partent plus vite. Maintenant, il y a plein d'embouteillages sur TEL2, alors tant pis pour eux.
Dans ce que dit Alain, donc, il met l'accent sur le fait qu'on oublie l'humain, qu'on oublie cette proximité qu'il y avait dans ce territoire entre Fontvert et Picombusserine, des quartiers qui sont dorénavant enclavés. Cet abandon de l'humain, on le ressent aussi à travers la vie associative et les difficultés que toutes les associations de France et de Navarre connaissent de plus en plus. Certaines depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Certaines passent peut-être le tiers, voire la moitié de leur temps à tenter de survivre et du coup ne sont pas au service de la population. Zoubida Meghani, je voulais vous intervenir à ce niveau-là concernant les difficultés de la vie du secteur associatif confronté à cette relégation concrètement de financement et quels sont les enjeux de la politique de la ville par rapport à cette réalité-là.
Alors, on parlait d'humains, donc après, ça dépend des humains, des techniciens qui en face, et la mesure qu'ils prennent par rapport à un projet d'association, qui rentre dans un projet de quartier. Parce que nous, à notre époque, c'était l'idée de faire, quand on a un projet associatif, ça correspond aussi à un besoin, et ça s'intègre dans une cohérence de quartier, un projet de quartier. On n'est pas là comme ça au hasard. Alors, il y a le problème, pour revenir à la... Bien sûr, les associations ont de plus en plus de difficultés. Alors, c'est lié aussi à toutes les réformes, je dirais, institutionnelles auxquelles on assiste, parce que l'État est de plus en plus en difficulté, endetté. Donc, du coup, il demande de plus en plus aux collectivités de relayer financièrement. Et moi, je vois un peu autour de moi, autour de ce que je connais, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Par exemple, la région, elle va dire, ben moi, je vais me concentrer sur mes politiques obligatoires. J'ai assez à faire. J'ai déjà quelques structures que je finance depuis des années. Je peux pas donner plus, donc l'association qui va venir, elle en aura pas, parce que déjà tout est distribué. Pareil pour le département qui a déjà son droit commun, qui est déjà surbooké, il ne va pas répondre déjà au truc. Je sais pas, si on prend pour revenir à la culture ou le sport, c'est déjà plein. Donc quand les associations de la politique de la ville, si elles veulent prétendre à ces financements, soit elles rentrent dans des critères très stricts. Il faut savoir quand même, le droit commun donne pas beaucoup, hein. Il y a des critères très simples. Par exemple, tu prends les clubs de foot, il y a tant d'euros par licencié. Il y a des règles qui sont toujours rotées comme ça. Et puis les associations, finalement, nées de la politique de la ville, c'est un vaste débat qu'on a eu il y a longtemps. Il n'y a pas de fonctionnement général pour eux. Et même s'il y a des lignes budgétaires qui ont été créées pour répondre à ce fonctionnement général des associations nées de la politique de la ville ou des quartiers, ils sont en train de les faire disparaître parce que chaque institution, je dirais, chaque collectivité se recentre sur ses compétences obligatoires. Et il y a un souci, c'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas politique, hein, c'est technique. Voilà. En fait, ce qui explique, par exemple, après, il y a de l'argent en politique de la ville. Il y en a plein de droits communs qui aimeraient bien dire, moi, je fais un projet, je prends des sous. Mais c'est plus facile pour eux, dans ce sens. Mais quand même, ce qu'on constate, c'est que les techniciens, ils font attention. Avant, ils ne faisaient pas attention à ça. Aujourd'hui, ils font attention quand même. Telle structure, elle joue un rôle important. Il ne faut pas qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de mutualisation. Il n'y a pas vraiment de réponse possible, sauf si il y a un maire, on va dire à Toulon, qui a fait ça. Il a enlevé la politique de la ville. Et ce qu'il a fait, il a voté des montants par direction des services thématiques qu'il y a. Et en fait, les associations, elles émargent directement à ces financements et l'État complète. Mmh. Et donc, je trouvais intéressant. Après, il y a un manque, ce que nous disaient les collègues, c'est qu'il y a un manque de coordination. Comment coordonner tout ça? Voilà, c'est tout.
Est-ce que dans ce que j'ai entendu, avec l'expérience que vous avez, hein, tous les trois, par rapport à le fait qu'il y a de moins en moins de financement, tout ça, quand on voit qu'il y a des violences urbaines là, actuellement, des réseaux de deals, tout ça, est-ce que la politique de la ville
n'a pas une part de responsabilité,
n'a pas impacté ces violences-là? Est-ce que les structures associatives étaient acteurs, étaient là présents avant, s'occupaient des enfants, il y avait un peu de conducteur jusqu'à... Voilà.
Est-ce que l'abandon de financement dans le secteur associatif n'a pas aggravé, accentué justement les dérives de ces quartiers et l'apparition du deal avec de façon exponentielle et tous les drames humains qui arrivent depuis les années 90, 2000, on va dire.
Et surtout actuellement, quand on voit que la région ne finance plus du tout. Il y a pratiquement moins de 30% ou 40% de moins de subventions. Ça pose question. Enfin,
moi, j'aurais envie de répondre par une boutade un peu triste, mais c'est que chaque fois qu'il y a eu des émeutes urbaines, on a retrouvé des financements dans la politique de la ville. Mmh. Malheureusement, hein, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu des gros soucis, hop, les robinets se sont réouverts par la suite.
Ouais. Donc, ce n'est pas très cohérent, voilà. Ça ne traduit pas une réelle volonté politique.
Absolument.
Une réelle volonté politique aurait dû être de la prévention et non pas intervenir après coup, une fois que tous ces secteurs associatifs, toutes ces banlieues se sont ghettoisés. Ils interviennent après, mais une fois, c'est un effet boomerang. L'abandon de la population amène à des radicalisations et des dérives. Alain, le bilan.
Oui, moi, sur cette question, je voudrais revenir sur un sondage qui a été fait il y a quelques jours à Marseille auprès des Marseillais, publié par les journaux locaux et notamment par sondage de l'IFOP, dans lequel la première préoccupation des Marseillais, d'après ce sondage, de l'ensemble des Marseillais, c'est l'insécurité et le trafic de drogue, les deux choses étant liées dans la question posée. D'abord, cette manière de poser une question est profondément scandaleuse. Qu'est-ce que ça veut dire que l'insécurité ? Oui, il y a de l'insécurité ici, dans ce quartier, par rapport à toutes les familles qui ont du mal à avoir terminé la semaine, terminé le mois, en termes de ressources.
Manque de mois.
Les gamins, c'est pareil. Exactement. L'insécurité est une insécurité financière, une insécurité par rapport à l'avenir, avant même de l'insécurité réelle, qui en effet. Et puis la manière dont, en effet, les médias, de façon systématique, quels qu'ils soient, hein, voire même certains journalistes, voire même certains écrivains, hein, stigmatisent sur ce qui se passe dans ce quartier. Alors, ce quartier au sud à côté, alors un mort, tant de morts, on additionne, etc. Tout le monde, finalement, s'en regorge, et notamment le maire de Marseille qui, discrètement, dit « Ils se tuent entre eux, c'est pas mon affaire. » Je caricature, mais c'est ça. Bon, donc cette dramatique image extérieure car ces quartiers-là est totalement fausse. Moi, à chaque fois, je m'inscris en faux. Alors, petit incident quand même. Il est clair qu'il y a un certain nombre de familles qui vivent ou qui survivent grâce à retombées des deals divers et variés. Pas seulement la drogue, hein, des deals divers et variés. Je dirais, si j'étais à leur place, j'en ferais autant. Hein. Donc la question, c'est d'abord un problème de ressources financières, de capacité qu'on a à vivre hors-delà de la précarité. Et en effet, quand arrivent des solutions un peu faciles du style les trafics divers et variés, il faut se rappeler quand même que dans ces quartiers-là, au sens large, les ressources qui arrivent comme ça par ces voies extérieures sont extrêmement minimes par rapport aux milliards de trafics au niveau national, voire international, qui se font là-dessus. Moi, je vais vous dire franchement, ça fait déjà un certain nombre d'années que je suis partisan de la légalisation de la consommation du hash. Alors ça, on y reviendra, certains sont d'accord ou pas. Moi, je plaide là-dessus en disant, ça ne va pas résoudre les problèmes. Bien sûr qu'il faut des conditions, ça ne va pas être facile. Mais il faut impérativement cette question qui est mise sur la place publique. Je vois que ça bouge un peu au niveau national. Il y a eu, y compris à Marseille, des comités qui sont organisés pour suivre la démarche que j'engage, moi, depuis ce qu'on appelle l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin, J-O-I-N-T, vous voyez, S. Hein, le 18 juin, moi, comme tout le monde, je sais, comme beaucoup d'entre nous, on signe cet appel pour dire qu'il faut légaliser. Ça ne va pas résoudre les problèmes, mais ça va enlever au moins cette image négative et cette liaison complètement absurde que font les Marseillais entre les trafiquants de drogue et l'insécurité. Oui, ça, il y a l'insécurité qui crée, mais l'insécurité, c'est bien plus grave que ça.
Merci. Enfin, bilan ?
Moi, je m'insurge quand même vraiment faux par rapport à ce que tu dis, Alain, parce que ce n'est pas des petits moyens supplémentaires qui arrondissent les fins de mois. Ça, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, ce sont des réseaux quand même qui gagnent des millions d'euros. Et quand on voit un jeune de 16 ans se faire tuer, je regrette, c'est quand même absolument inadmissible. Et c'est quand même une plaie que vivent les quartiers. Moi, quand je vais dans une cité, que je vois ces guetteurs, que je vois tout ce réseau, que je vois tout ça vu au sud de tout le monde, je regrette, ça me choque profondément. Et si la dépénalisation, c'est une solution, personnellement, j'y suis tout à fait favorable, mais il faut absolument que ce trafic s'arrête au vu et au sud de tout le monde. Faute aussi aux consommateurs, qu'on oublie trop souvent.
Oui, mais les consommateurs, parce que ça aussi, les consommateurs ont le dos. Il y aurait peut-être moins de consommateurs si les pouvoirs publics prenaient leurs responsabilités. Quand on voit des fauteuils
absolument.
De style Louis XVI dans les quartiers avec des jeunes installés dans la journée, veut dire peut-être que les pouvoirs publics ne sont pas là où il faut. Faire des descentes quand il y a eu un assassinat, certes, mais la faute aux pouvoirs publics ont laissé gangréner les situations. Parce qu'il faut savoir que les petits réseaux que nous avions dans un quartier comme la Busserine que je connais étaient maudits, étaient moindres à l'époque, années 80. Veut dire, il y avait un dealer connu, la drogue dure ne rentrait pas. Maintenant, on achète de la drogue dure comme on achète une baguette de pain. Je veux dire, donc, peut-être que les pouvoirs publics ne sont pas là où il faut, au moment où il faut, et que le développement de moi, je pense que l'État a sa part de responsabilité là-dedans.
Écoute, Jean-Pierre, moi, j'ai suivi à un moment donné des opérations à grande échelle qui se sont faites. C'était il y a 3, 4, 5 ans. Et vraiment, la gomme a été mise du point de vue de la répression. Et il y avait aussi une tentative d'organisation, d'articulation avec de la prévention. Moralité, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Sauf qu'actuellement, les personnes qui ont été arrêtées à ce moment-là sont en train d'être jugées et qu'on voit les chiffres d'affaires complètement incroyables qui se passent. Et moi, je crois que c'est un vrai problème de société. Il n'y a pas que l'été.
Où sont les îlotiers ?
Mais les pauvres îlotiers, tu penses
pas. La police de proximité qui venait boire le café à Boudiensoul, veut dire le réseau de shit qui était à côté de nous, dans le bloc à côté, et se faisait invisible quand on avait les îlotiers qui venaient. Maintenant, l'absence de présence régulière, quand on voit que les dealers sont en capacité de mettre des affiches dactylographiées sur des murs d'entrée dans des tours, en disant à la population, attention, si vous faites le jeu, si vous œuvrez avec la police, donc, c'est-à-dire quand ils prennent cette place-là, c'est qu'à un moment donné, les pouvoirs publics sont inexistants.
Zubida, tu veux prendre la parole ?
Oui, moi je voulais dire le problème de la drogue à Marseille, c'est un phénomène général, c'est pas simplement dans les quartiers. Ils sont quartiers, je dirais dans les quartiers nord,
en même temps,
où les quartiers
c'est amplifié.
Non, c'est dans voilà. C'est plus organisé et plus violent parce que ça ramasse, ça génère beaucoup d'argent. Ça veut dire, dis-toi bien ça, c'est que ça génère des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. C'est un vrai commerce. Ouais, je suis d'accord. C'est un vrai commerce, mais il n'est pas qu'ici, il est dans tout Marseille. Quartier sud, quartier centre, quartier de partout. Donc ça veut dire que pour moi, c'est économique. C'est un développement économique souterrain. Et n'oublions pas que Jean Rose, à l'époque, et Michel Ancel, mais Peraldi, ils avaient fait un bouquin, disant que ça existait déjà. Mais c'est sorti parce que pourquoi ? Tellement. Moi, j'ai l'impression, moi, ce qui me gêne, c'est les habitants. Voilà, parce que moi, ma mère habite toujours là. Mais moi, la fois, je dis, je vais aller leur parler, je vais leur dire, écoutez, franchement, vous êtes trop visibles, vous croyez où, cagoule et tout. Je vais dire, mais cachez-vous comme faisaient les autres. Au moins, que les gens, ils se sentent en sécurité. Parce que le problème, il n'y a plus, tu n'as plus de pouvoir. C'est-à-dire que, avant, les jeunes et les habitants, ils allaient voir quand il y avait des réseaux de drogue dure qui s'installaient, ils faisaient l'opération, ils partaient. Aujourd'hui, ils se font tuer. Donc, on est sur un autre mode de fonctionnement. On est passé à une échelle de discussion, de médiation, à une échelle de violence, et tu ne peux pas faire. Moi, on me dit, ne n'y va pas. J'ai dit, mais c'est des gens comme nous. Et pour moi, c'est commercial. Donc, moi aussi, je suis pour la dépénalisation, mais est-ce que la drogue dure, c'est notre paire de manches ? Parce que dans les quartiers, il n'y en avait pas, il y en a. Donc, moi, quand j'y étais, il n'y en avait pas, quand j'habitais là. Mais rapidement, sur ce que je voulais dire aussi, c'est général. Bien sûr, l'État, il y avait, rappelle-toi, les fameux ninjas qui intervenaient. Il y avait toujours des opérations, ils prenaient les jeunes. Moi, j'ai assisté à je ne sais pas combien, même c'était dégueulasse, de toute façon, comme il est traité et tout. Mais c'est autre chose. Ceci dit, l'insécurité, pour revenir à l'insécurité, ce sentiment de sécurité, les gens, pourquoi ils adorent ? Parce que ça existe de partout, en pied de bâtiment, de partout. Et puis, moi, je pense l'aménagement urbain aussi, tel qu'il est fait, contribue aussi à l'insécurité. Je suis d'accord que, franchement, sur la Busserine, moi, je suis scandalisée. Il faut faire le grand tour pour arriver au bâtiment de ma mère.
S'il te plaît.
S'il y a le feu, comment tu fais avec les voitures ? Bon, voilà. Je conclue. Oui. Je conclue ? Oui, moi, je pense. Je vais te dire quelque chose. C'est que je pense que la politique de la ville aujourd'hui, c'est une politique de paix sociale. C'est-à-dire, ils donnent des sous pour calmer. Et puis, avant, pour revenir à l'histoire des jeunes, c'est vrai qu'avant, quand il y avait beaucoup plus de financement pour les loisirs jeunes, ados, enfants, qui partaient des fois 40 camps de la Busserine. Moi, je m'en rappelle, parce que j'étais responsable. On formait les animateurs, quand même, on en a sauvé beaucoup. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Après, pour les jeunes, pour revenir à ces jeunes-là, à difficulté, il faut leur expliquer qu'il faut aller travailler, quand même. Il y a un souci là-dessus. On en rediscutera après une prochaine fois.
Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, Jean-Pierre, comme quoi on ne les connaît pas, les habitants, il ne faut pas oublier que, dans le cadre de la rénovation urbaine, il y a des lots d'habitants qui habitaient ici pendant 40 ans, qui ont été délogés ailleurs. Il y a pratiquement, je crois, 400-500 familles. Et c'est vrai qu'il y a des nouvelles familles qui sont là, qu'on ne connaît pas, qui sont en train de connaître le terrain et qui se renseignent. Et ça, c'est important de soulever.
On va faire une pause. Non, on ne fait pas de pause. Il nous reste 5 minutes, Farid. Donc, on ne fait pas de pause. Je voudrais conclure, justement. Merci pour vos impressions, mais il nous reste 10 minutes.
Ah oui,
donc, on n'a pas le temps de faire une pause. Moi, je voudrais d'abord, Zubida, évoquer l'intervention de Peraldi, de certains chercheurs. Il y avait Salva Kondro, on a eu connu Jean Rose, on a eu Émile Témil, qui est intervenu sur le quartier, on a eu Alain Fouret. Donc l'occasion m'est donnée, justement, non, moi je voudrais m'arrêter 5 minutes sur ces chercheurs, ces intervenants, ces têtes pensantes, et notamment sur Alain Fouret, qui a quand même été un opérateur hors pair dans nos quartiers. Son implication était au-delà du professionnel. Et je voulais profiter de cette occasion où on parle de la politique pour lui rendre hommage et puis pour le remercier de tout son investissement, de toutes ses interventions, de son implication exceptionnelle quand même sur ce quartier. Et c'est vrai qu'il fait partie de ceux que l'on n'oubliera pas. De même que Émile Thémines, notre prince aux cheveux blancs, et faisait partie un petit peu de ces histoires de ce quartier, moi, je ne vais pas attendre que M. Fourest tire sa révérence pour lui dire un grand merci au nom de toute la population, au nom de toutes les personnes, les techniciens de ce quartier qu'il a aidé, qu'il a soutenu. Et,
Jusqu'à maintenant.
Et donc, je lui donnerai le mot de la fin, puisque Alain Fourest est intervenu à Alain directement, puisque le mot de la fin, puisqu'il a fait un ouvrage justement qui parle justement par rapport à la politique, un bilan un petit peu. Donc, je voudrais qu'il nous termine sur ce regard-là qu'il a eu sur toutes ces années, d'investissement sur ce quartier.
Alors, bon, quelle flatterie. Je ne méritais pas ça. Surtout que je n'ai jamais été chercheur. Hein. Moi, je suis un praticien. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'écouter ou de lire ou de travailler avec des chercheurs que tu as cités. Mais je ne fais pas partie de ce clan des universitaires qui ont fait des choses très intéressantes. Ce que je peux regretter simplement, c'est que nous étions que quelques-uns à lire, à prendre le temps de rencontrer ces chercheurs pour essayer de comprendre ce qui se passait dans le quartier. Et malheureusement, l'ensemble des politiques et beaucoup de fonctionnaires n'ont jamais pris le temps de lire plus de 2 pages ou de 3 ou 4, enfin ce maximum, alors que forcément, il faut prendre du temps pour essayer de comprendre. Donc ça, c'est un premier élément de l'analyse. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est on revient sur un instant sur tout à l'heure. Ce débat que j'ai lancé et qui a fait manifestement tilt à propos du problème des trafics de drogue, etc. C'est vrai que c'est un sujet difficile, c'est polémique, etc. Mais je pense que d'abord, l'échec de la politique de la ville, s'il y en a là-dessus, entre autres, c'est l'échec répressif, c'est-à-dire des modalités mises en œuvre par les ministres de l'Intérieur successifs et largement soutenues par l'opinion publique, par les différents acteurs hein, de cette répression, les policiers, les CRS, etc., mais aussi un certain nombre de personnes politiquement engagées qui disent « la seule manière, c'est... » Il faut répression, répression. Voilà, 40 ans qu'on fait de la répression. Le premier, la Ouari, j'y reviens. Hein, c'était quand même une opération de répression. Et je pourrais longuement discuter sur ce qui s'est passé à ce moment-là. La répression, c'est qu'elle a échoué radicalement. On a vu les emplois, la police de proximité, il y a eu des tentatives, etc. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les démarches à nouveau engagées par le gouvernement, et quand on entend le discours du Premier ministre hier... On a craint qu'on soit encore sur le modèle répressif, les trafics de drogue, il faut arrêter tout ça, c'est insupportable, etc. Je pense que là, il y a une impasse radicale sur laquelle nous sommes, je suis sûrement extrêmement minoritaire, mais je pense qu'un jour, les minoritaires auront raison. C'est-à-dire qu'il faudra faire en sorte, comme ça se passe dans la plupart des pays du monde, des pays évolués, que ce soit la Suisse, la Hollande, les États-Unis ou l'Uruguay, auquel j'ai travaillé certaines années, il y a une connaissance approfondie de la réalité. Quand on voit que pratiquement un jeune sur trois a fumé et fume encore, et que, cette situation-là, il faut la prendre en compte, même si on n'est pas d'accord, malgré les conséquences graves que je reconnais forcément. Mais je pense que, par exemple, l'appel des 100 mères de famille qui ont signé un appel il y a quelques semaines sur cette question-là, il faut vraiment l'entendre et comprendre cet appel de détresse qui est dramatique, mais qui en même temps nécessite d'autres moyens que la politique actuelle. Alors, je termine sur un aspect un peu particulier. C'est vrai que dans un an, il y a des élections municipales, on commence à parler de plus en plus politique, etc. Moi, par rapport à ce qui se passe dans ces quartiers populaires, j'ai un peu le sentiment que malheureusement, les partis politiques traditionnels ont gâché la marchandise, excuse-moi l'expression rapide, avec la façon dont ils ont utilisé, exploité, utilisé, avec y compris des financements. Je ne parle pas simplement de l'électoralisme de bas étage, hein, mais un certain nombre d'élus que je connais trop, hein, qui régulièrement viennent ici, font des salam alek, etc., ils desservent complètement ce qu'on appelle la politique au sens large du terme, c'est-à-dire au bon sens du terme, la gestion de la ville. Or, aujourd'hui, ces partis politiques sont en effet extrêmement dévalorisés aux yeux d'une bonne partie des habitants. Alors, je sais que certains d'entre vous ont pris des initiatives, ont fait des collectifs, j'ai participé aux uns et aux autres, passons-nous, etc., et ont des projets pour faire autre chose que ce qui se passe actuellement. La question qui m'interpelle, c'est comment ces projets-là peuvent-ils être repris en compte à l'échelon municipal, voire départemental, voire métropole, par une véritable stratégie qui va modifier complètement la politique mise en place jusqu'à présent. Donc d'abord, si j'ai quelque chose à dire pour terminer, il faut impérativement que vous, les habitants de ces quartiers-là, les capacités que vous avez de dire des choses, de le faire savoir, il faut un jour prendre des responsabilités d'initiative politique. C'est ça la politique de la ville. Pourquoi est-ce qu'on appelle politique ? Parce que c'est d'abord la politique. Et la politique de la ville au sens strict, qu'est-ce que c'est si ce n'est que les habitants se prennent en compte, donnent leur avis et participent directement, prennent le pouvoir dans cette ville. Comment se fait-il qu'on ait tant de recul ? Il faut prendre le pouvoir, il est presque à la main là. Dans quelques semaines,
merci,
il n'y aura plus
Alain.
Personne.
Merci,
prenons
Alain.
Le pouvoir.
Merci Alain pour cette belle conclusion de la politique de la ville à la politique. Alain, je te remercie. Nous allons remercier aussi Zoubida Meghani et Marie-Martin Rager. Et je passe la parole à Farid.
En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Marie-Martin Rager, hein, merci d'être venue. En tout cas, on aura l'occasion dans notre manifestation de se revoir. Il n'y a pas de problème.
Sûrement.
Et je sais que vous êtes toujours acteur ici sur ce territoire. Zoubida Meghani, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est intéressant.
Alain Forest. Merci aussi.
Voilà. Grand merci.
Merci à Marie et à tous les trois de toute façon. En tout cas, Jean-Pierre, merci d'avoir été toujours fidèle avec moi, de co-animer des émissions vachement intéressantes, notamment sur le service de la politique de la ville. Un dernier mot, je voulais dire à tous les habitants qui nous écoutent et en même temps aux acteurs, voilà, on baisse pas les bras. C'est un territoire où il y a une fibre pour militantisme.
Le seul hommage qu'il faut rendre, c'est à la famille Ega pour la permanence ici, de génération en génération. Voilà. Merci.
En tout cas, je vous invite d'aller sur notre site levivreensemble.org et
www.vivreensemble.org, le journal du Grand Saint-Barthélemy. Et vous pouvez trouver tous les éléments sur le Radio Galère. Tu nous donnes, donne-nous le déroulé. Il faut aller sur
88.4. Vas-y, c'est dit.
Le site, c'est http://radiogalère.org.
Merci, Sidi. Voilà. Et on se revoit pour le mois prochain sur une thématique sur la prévention des abeilles. Ce sera au Théâtre du Merlan. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.